écoutons le témoignage de Roland Dorgelès.
En 1955, l'écrivain Roland Dorgelès, ancien poilu, a été convié à une cérémonie de commémoration des combats de l'année 1915. Il témoigne.
L'autre dimanche, sur le plateau de Notre-Dame de Lorette, on célébrait le 40e anniversaire de l'offensive d'Artois et les délégations des nombreux régiments qui prirent part aux attaques se trouvaient rassemblées autour de la chapelle. 10 000 hommes environ, devant 40 000 tombes, les survivants étaient moins nombreux que les morts.
En 1915, la guerre de position s'installe et de chaque côté, face à face, on creuse des tranchées. Roland Dorgelès se souvient du quotidien.
On s'habitue à vivre au milieu des cadavres. Les troupes de relève les foulaient sans les voir. Et je me souviens d'un pied botté dépassant d'un talus où nous suspendions nos musettes. Pour nous tranquilliser, nous assurions que c'était le pied d'un boche. D'énormes rats grouillaient sur ces cadavres et quand nous dormions, ils couraient sur nous, croyant que nous étions morts aussi.
En 1915, le jeune cuirassier Louis Destouches, lui, n'a pas connu l'enfer des tranchées, car il est parvenu à s'extraire du front. Une entourloupe qui éclaire toute la suite chez Louis-Ferdinand Céline.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Reprenons le fil du récit. Le 25 octobre 1914, Louis Destouches est blessé au bras sur le champ de bataille. Opéré à l'hôpital d'Hasbrook, il est ensuite transféré au Val-de-Grâce à Paris. Et c'est là, durant l'hiver 1915, que le maréchal des logis entre en convalescence, animé d'une seule obsession.
J'ai réfléchi, je ne veux plus y retourner.
Ne pas retourner au front. Ses rêves de gloire se sont fracassés contre la folie des combats de l'automne 1914. Donc, hors de question pour lui de réintégrer son régiment. Alors, par quels moyens et surtout avec quelle vision du monde Louis-Ferdinand Céline a-t-il réussi à changer le cours de son destin de soldat? C'est la trame de ce nouvel épisode.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour. Troisième épisode, fuir la guerre.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été un moment et en oubliant certains de ses livres?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale. Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
À partir de l'hiver 1915, après plusieurs semaines d'une course sanglante vers la mer du Nord, la guerre s'enlise de part et d'autre de la ligne de front.
Il faut absolument empêcher les Allemands de prendre Soissons. Et pour cela, nous devons les attirer vers un autre objectif. Là, par exemple.
La côte 165?
Oui.
Mais elle ne présente aucun intérêt stratégique.
Nous allons lui en donner un.
D'une guerre de mouvement, on passe à une guerre de position. Les troupes ne se déplacent plus, elles se figent les unes en face des autres.
Alors vous approchez des lignes, vous repérez la position des mitrailleuses et vous revenez tranquillement. C'est compris?
Et pour tenir sa position, chaque camp creuse des tranchées.
Allez, allez, tout le monde au travail!
Comme s'en souvenait l'officier d'infanterie Julien Quint.
Il a fallu faire des tranchées.
Au micro de France Culture en 1965.
On les a faites d'abord avec des pelles bêches. C'était de simples monticules. Et puis, Après sont arrivées quelques pioches, quelques pelles d'un format un peu plus grand qui ont permis de creuser un peu plus profond.
De la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord, les poilus s'enterrent sur plus de 700 kilomètres.
Quand les tranchées ont commencé, les hommes qui sont de bons ouvriers, qui sont de bons artisans, ont pris une espèce d'honneur à faire des tranchées perfectionnées. Et je me rappelle dans ces mois de janvier et février où nous étions enfoncés dans la boue, où nous avions à lutter contre tous les éléments, les hommes ont continué de se piquer d'honneur à faire des tranchées habitables.
Avec ces tranchées, la guerre est partie pour durer des années et la vie quotidienne des soldats se transforme en calvaire.
Tout se passera bien, mon gars. Tu t'y habitueras.
De son côté, au printemps 1915, le cuirassier Détouche est rétabli de sa blessure. Et il aurait dû rejoindre les tranchées.
Je suis désolé, mon gars. Je peux pas te garder ici. Tu repars sur le front demain.
Or, il a obtenu une toute autre affectation. Il débarque à Londres le 10 mai 1915. Comment s'est-il débrouillé ?
Alors en fait, il a réussi, et on ne sait toujours pas d'ailleurs comment, à obtenir en fait une affectation en pleine guerre.
Odile Roinette est historienne.
En 1915, alors que précisément la mobilisation s'intensifie en France, que les premières lois sur la quête des embusqués commencent à être votées et appliquées.
Un embusqué, c'est un planqué. Hein.
Voilà, ça va devenir une sorte d'anti-héros de la Première Guerre mondiale, une figure à la fois réelle et en même temps totalement mythique, obsessionnelle, de l'homme qui arrive à échapper au danger. Alors à différents niveaux, soit à l'arrière, soit même sur le front, puisqu'on peut très bien être un embusqué du front.
C'est pas gêné de me la foutre dans les cours, je l'ai peut-être dans la gueule planqué. On va péter un peu pour voir.
Bah, j'ai dit que t'étais un planqué.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Une ordure de planqué.
Allez, dis pas ce que tu dis.
Donc, il obtient une affectation très privilégiée, probablement parce qu'il savait l'anglais, au consulat français de Londres, où l'on a besoin en fait de jeunes soldats qui peuvent parler anglais et qui peuvent s'occuper en fait de l'obtention des visas, puisque pendant la Première Guerre mondiale, l'obtention des visas se resserre, hein, donc il y a un contrôle plus étroit par les Britanniques des ressortissants, notamment étrangers présents au Royaume-Uni. Et donc, une manne extraordinaire s'ouvre, parce qu'on a besoin d'hommes qui sont éventuellement des blessés de guerre, donc qui ne peuvent pour l'instant pas forcément retourner sur le champ de bataille. Et probablement parce qu'il est à Paris, parce qu'il connaît un certain nombre de camarades, il a certainement à un moment donné une information cruciale, il se présente et il est recruté, donc pour partir à Londres.
Donc, attention. Louis Détouche n'est pas un déserteur. Il part à Londres en tant que soldat, où il intègre, grâce notamment à sa connaissance de l'anglais, le service des passeports du consulat français.
Et ce départ va être une autre bascule dans sa vie, parce qu'il quitte le territoire français, il découvre une ville, une immense métropole, qui a la caractéristique à ce moment-là d'être à la fois dans la guerre et pas complètement dans la guerre, puisqu'à ce moment-là, les Britanniques appliquent encore le volontariat de guerre, hein, qui va être considérable, hein, à l'appui des contingents français. Donc les contingents de volontaires britanniques sont très importants, hein, entre 1 et 2 millions jusqu'en 1915, mais il n'y a pas de conscription. Donc c'est une ville, c'est une plaque tournante aussi de la circulation des soldats du Commonwealth, hein, qui vont être affectés sur le territoire français. Donc c'est un lieu absolument fascinant.
Écoutons le témoignage de Paul Morand, qui, de 1914 à août 1916, était attaché à l'ambassade française de Londres.
Tout ce que je pouvais sentir, c'est qu'il y avait en Angleterre, parmi les permissionnaires et les soldats, un grand désir de détente quand ils arrivaient en permission. Ce qui choquait beaucoup les Français, par exemple, c'est qu'à Londres, on dansait le soir. Que tous les vieux généraux, les amiraux, tout le monde dansait. Or, en France, personne n'a dansé en public jusqu'à la fin de la guerre. Quelques petits groupes privés parmi les aviateurs qui fréquentaient Maxime, mais c'était rien. J'ai vu des jeunes femmes qui étaient veuves de la veille donner des balles le lendemain en Angleterre, parce que c'est dans l'esprit anglais, ce qu'on n'aurait pas imaginé en France.
Mesdames et messieurs, nous allons jouer la dernière danse de la soirée. J'espère que vous aimerez la valse dans l'ombre.
La vie nocturne à Londres, durant la Première Guerre mondiale, a conservé son intensité, comme une soupape de liberté pour les soldats en permission, par exemple, à la différence de Paris, où l'esprit n'est plus à la fête.
Vous êtes en permission ?
J'en reviens, ma famille est en Écosse.
Il faut que vous repartiez en France, je veux dire ?
Demain.
Oh, comme c'est triste. Quelle affreuse guerre.
Je ne sais, il y a quelque chose de stimulant dans tout cela. On rencontre à chaque seconde une sorte de fascination de l'inconnu.
Cette vie nocturne sulfureuse a des conséquences pour Louis Destouches, maréchal des logis, affecté à Londres.
C'est un lieu où il rentre dans un milieu, par ailleurs, qui est le milieu du proxénétisme, qui va jouer un très très grand rôle dans sa vie. C'est un milieu, si vous voulez, de l'envers, c'est un milieu de la violence. Et c'est un milieu qui, en fait, le met en contact avec le dérèglement.
J'ai envie de t'attacher, je peux ?
Donc il est en contact avec des danseuses, avec des stripteaseuses, avec des prostituées, avec des proxénètes. Un certain nombre de proxénètes français sont réfugiés à Londres.
Très bon, tu la veux ou tu la veux pas ?
Bon, si elle est vierge, comme tu dis, t'aurais tes 200 francs.
Attends, pour celle-là, 250.
200.
Et donc, ce sont les bas-fonds de la capitale londonienne qu'il fréquente avec un sentiment dont on ne sait pas très bien ce qu'il était réellement, à la fois de fascination pour ce milieu et en même temps peut-être aussi de répulsion, enfin de sentiment de transgression. En fait, c'est encore une fois cette transgression qu'il recherche. Finalement, il n'arrive pas à sortir de ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à Londres, tout en ayant au départ une activité sage, j'allais dire, dans la journée, deux gratte-papiers au consulat français, une autre vie à côté, qui est celle de la fréquentation des proxénètes, qui va rester pendant longtemps, hein, puisqu'il reste en contact avec des proxénètes bien après la Première Guerre mondiale, hein, dont certains sont ses amis intimes.
On n'a jamais parlé de Londres, on n'a jamais parlé de sa vie ancienne.
Témoignage de Marcel Brochard, ami d'enfance de Louis-Ferdinand Céline.
Il ne vous a jamais dit qu'il avait été Macron à Londres ?
Il n'a jamais été... Moi, je ne vois pas Louis Macron en aucune chose. C'était la bonté d'âme. Enfin, je ne sais pas, pour être Macron, il faut avoir un petit peu tout de même. Non. Je voudrais pas me redire, mais quand on lit Rigaudon, c'est la bonté qui ressort dans ces lignes.
Oui, mais enfin, à Londres, il a eu quand même une vie, on ne sait pas très, il s'est marié là-bas, non ?
Oui, vous savez bien qu'il y en a un qui a recherché tout partout dans les... Oui, on a retrouvé même le procès-verbal du mariage. Mais moi, je ne sais rien de tout ça. Je ne peux rien vous dire.
Il est fort probable que Louis Destouches se soit marié une première fois à Londres, mais l'union n'aurait pas été officialisée. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est ce que nous dévoile son dossier militaire. Les archives nous révèlent qu'à Londres, le 7 décembre 1915, le médecin de l'ambassade, le docteur Dardenne, lui a signé une réforme de type numéro 2. Alors, c'est un peu complexe, mais suivez bien la démonstration, c'est important.
Alors, c'est important parce que dans l'armée française de ce temps, même avant la Première Guerre mondiale, il y a deux types de réformes. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est important. D'abord, il y avait les réformes dites numéro 1, qui étaient en fait accordées aux soldats gravement blessés ou gravement malades des suites soit du service militaire, soit de la guerre.
Vous voulez dire quelque chose ?
Et puis, il y avait les réformes numéro 2, qui, elles, étaient sans gratification, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de pension, Pourquoi ? Parce qu'on était soit blessé ou on était devenu invalide des suites d'une cause qui n'avait aucun rapport soit avec le service militaire, soit avec la guerre. Donc ces réformes numéro 2, elles n'étaient censées être accordées qu'à des soldats, par exemple, qui avaient eu un accident lors d'une permission, des choses comme ça qui étaient indépendantes de la guerre. Or, Céline est un blessé de guerre. Bon. Pourquoi est-ce qu'il obtient cette réforme numéro 2? En fait, il y a deux hypothèses. La première, au début de la guerre, comme l'État français est absolument submergé par le nombre des blessés et du problème social, de la question sociale vraiment de ces blessés qui doivent pouvoir continuer à vivre pendant leur convalescence, leurs soins, en fait, des réformes numéro 2 leur sont accordées pour leur permettre de quitter l'armée, mais sans gratification. C'est-à-dire qu'on ne va pas les rémunérer.
Pas de pension.
Il n'y aura pas de pension. Donc c'est une sorte de vol, enfin de spoliation en fait. Dans le cas de Céline, je pense que c'est tout à fait différent. On voit bien, on l'a bien vu depuis le début, Louis-Ferdinand Destouches est très au courant de ses droits, très soucieux d'affirmer ses droits. Et il a probablement, même si nous n'avons aucune preuve évidemment de cela, parce que ça n'était pas très glorieux, négocié avec le consulat français de Londres pour obtenir une réforme numéro 2 qui lui permettait de sortir définitivement de la guerre, mais moyennant le renoncement à toute pension. Alors qu'il avait une blessure de guerre qui n'était pas contestable.
Sachez qu'à l'époque, à l'automne 1915, le soldat Destouches est visé par l'article 3 de la loi d'Albiez, une loi qui traque les embusqués.
Vous êtes contre la guerre, c'est ça? Non? Alors vous retournerez au front dès demain.
Car on a besoin de tous les hommes au front.
Mon doigt ne cicatrise pas, mon capitaine.
C'est pas grave. Vous appuierez sur les détentes avec le major. C'est suffisant pour tuer un Boche.
Destouches doit donc passer deux visites médicales. Et on peut dire que le docteur Dardenne est a priori un médecin complaisant.
Il n'est pas pressé de retourner au front.
Et on voit un médecin au consulat, donc qui signe un formulaire de réforme numéro 2, alors même qu'il a une blessure de guerre qui est avérée. Donc là, il y a un mystère, mais un mystère que moi j'ai tendance à expliquer par le fait que ça va lui permettre de sortir définitivement de la guerre. Alors que s'il était parti sur une réforme numéro 1, en fait, elle n'était attribuée qu'à des hommes qui ne pouvaient plus combattre. Or, la blessure de Céline, c'est bien le problème, n'est pas suffisamment grave pour l'extraire définitivement soit du front, soit de l'arrière-front. Il pouvait tout à fait continuer à travailler pour l'armée, dans les bureaux, dans des tas d'activités. Et ça, évidemment, pour lui, il n'en est pas question. L'obsession, c'est comment sortir de la guerre, comment ne pas retourner sur le front.
On peut comprendre qu'on n'ait pas envie de retourner sur le front, bien sûr, évidemment, et qu'aurions-nous fait à sa place, d'ailleurs. Mais sans jugement moral, est-ce que l'historienne peut dire qu'à ce moment-là, le soldat Destouches est un embusqué?
On peut dire qu'il obtient, il a une situation qui, si on la compare, puisque ça c'est quand même le rôle de l'historien, à la masse des hommes qui ont souffert pendant des années, qui ont été blessés, parfois beaucoup plus gravement, une situation de faveur. Ça c'est indéniable et sans jugement de valeur. C'est un jeune homme, il a 20 ans. Quand il est réformé définitivement. On est au pire moment de la guerre. Hein. On est en 1915. À un moment où chacun croit encore à l'assaut décisif qui va pouvoir briser les lignes. Les pertes sont considérables. En toute logique, s'il n'avait pas obtenu cette réforme numéro 2, il aurait été réinjecté dans la masse des combattants. Il serait reparti sur le front. Et ça, il en est, à mon avis, parfaitement conscient, et on comprend bien en effet qu'il ne le veuille pas. Je pense que ça a été l'obsession de toute cette année 1915.
J'insiste là-dessus parce que, évidemment, un des grands reproches de Céline plus tard, ce sera en effet de hiérarchiser la souffrance ou ceux qui ont été embusqués, y compris notamment et surtout les Juifs. Je le dis parce que c'est important d'entendre que dès 1915, ce soldat qui a souffert sur le front choisit de s'extraire du front, de devenir un embusqué de sa propre volonté quand même.
Tout à fait. Et évidemment, il va utiliser ensuite l'argument de l'embusqué. On est toujours l'embusqué de quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, c'est en tant qu'embusqué, finalement, qu'il va utiliser cette rhétorique ensuite, dans les années 30, à l'égard de la communauté juive. Hein. Considéré comme un bloc d'embusqué. Hein. Mais c'est typique des retournements céliniens. Hein.
Et à partir de quel moment et de quelle façon avez-vous pris conscience alors du caractère inacceptable, en somme, de cette société ?
Eh bien, je vous avoue, très tard.
Très tard.
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Jean Guénaud, 1960.
C'est venu, vous savez, avec les mercantis, comme on l'appelait alors. C'est-à-dire que les embusqués qui gagnaient du pognon pendant que les autres crevaient.
Résumons. Louis Destouches n'aurait jamais obtenu une réforme de type numéro 1, car sa blessure de guerre n'était pas suffisamment handicapante. Et donc, il aurait dû rejoindre le front à la fin de l'année 1915.
Je suis désolé, mon gars. Je peux pas te garder ici. Tu repars sur le front demain.
Mais avec une réforme de type numéro 2, le voilà libéré de ses obligations militaires. Il redevient civil et échappe à la guerre.
Les petites formes de sens, c'est pas là-bas qu'on s'amuse.
Un embusqué, donc.
Planqué.
Arrive maintenant l'automne 1916. Et malgré la guerre qui fait rage en France, le jury Goncourt continue à décerner son prix. Et cette année-là, c'est Henri Barbus, avec son roman « Le feu », qui décroche les lauriers. Un récit puisé dans sa propre expérience du front, comme engagé volontaire.
On distingue de longs fossés en lacis, où le résidu de nuit s'accumule. C'est la tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de l'urine de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent aussi comme des bouches.
Au moment où Henri Barbus est couronné du prix Goncourt, le 15 décembre 1916, Louis Destouches a quitté Londres depuis plusieurs mois. Il a été démobilisé, il a quitté l'Angleterre en mai 1916, et il vit désormais en Afrique. Pour quelle raison ?
Alors, je crois que c'est une raison qui est directement liée à sa réforme numéro 2. Il n'a pas d'argent. Il n'a plus son poste au consulat de France puisqu'il est réformé. Donc, il faut qu'il gagne sa vie, tout simplement. Et deux options se présentent à ce moment-là, à mon avis. Soit l'entrée dans le monde du proxénétisme, qui pouvait être une possibilité, soit le départ vers autre chose. Et en fait, il reste à ce moment-là beaucoup en contact avec ses parents, toujours ses parents à l'arrière-plan. Et ses parents sont en liaison avec un agent d'une compagnie forestière, hein, la compagnie forestière Sanga Ubangi, hein, qui était une des plus grandes compagnies forestières d'exploitation en Afrique équatoriale. Et ils ont besoin d'agents sur place pour faire marcher les plantations. Donc il a, à ce moment-là, en fait, une opportunité qui lui est présentée par ses parents. Donc il revient quelque temps à Paris et il fait affaire avec cette compagnie et il repart depuis Londres vers le Cameroun, au cœur de l'Afrique noire, pour devenir un colon, un homme qui va faire tourner les plantations de cette compagnie qui, c'était par ailleurs une des compagnies les plus gravement impliquées dans les mauvais traitements à l'égard des populations africaines. Et il part pour gagner sa vie. On a des lettres où il nous explique d'ailleurs combien la vie de surveillant de plantation est juteuse, hein, et comment il s'enrichit.
Lettre à Simone Saintu, Bata, Guinée espagnole, 4 juillet 1916. Ma chère Simone, je suis en voyage. Descends lentement la côte africaine, un peu au hasard, avec une centaine de porteurs noirs qui transportent une camelote que je vends très cher et échange contre de l'ivoire que je paie fort bon marché. Pour porter cette lettre à la poste, un nègre marchera 5 jours dans la brousse. Si d'aventure elle émane l'odeur peu agréable de nègre, je vous prie de l'excuser, elle vient de bien loin.
Et qui porte un regard sur les populations africaines, qui est d'emblée un regard, j'allais dire, conforme à la, au racisme commun de cette époque des Européens vis-à-vis des Africains. Il a en particulier, il emploie souvent le terme de nègre. Il parle aussi des bons sauvages, donc on voit tout cet imaginaire hein, de la colonisation française, finalement, qu'il habite de manière importante.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à son père. Le 3 octobre 1916. Je t'assure que l'esclavage, vu sous ce jour, ne reflète point la lumière d'horreur que les temps y ont projetée et sous laquelle nous avons coutume de le voir. Je me plais à croire que les Romains pratiquaient l'esclavage à peu près sous cette forme.
Dans les correspondances aussi, on aperçoit son rapport à l'esclavage. Il écrit à son père et au-delà de la dimension raciste et raciale, il y a aussi l'exploitation des uns par les autres et ça ne lui pose aucun problème.
Oui, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, il fait l'apologie du système colonial. Hein, l'esclavage, ou en tout cas la domination hein, d'une toute petite partie de la population blanche sur l'extrême majorité de la population noire lui paraît tout à fait justifié. Probablement aussi parce qu'il est profondément dans cet imaginaire. Il voit le monde déjà, peut-être depuis longtemps en réalité, comme un monde où sévit le clivage entre dominant et dominé.
Je suis tout porté à croire que certains êtres sont naturellement prédestinés à être esclaves, paternellement traités, il s'entend. Et que pour eux, la liberté est un poison dont ils intoxiquent toute la République par répercussion. Aussi rétrograde que paraisse mon idée, je crois que nous aurions beaucoup à gagner à mettre sous une douce tutelle certains hommes et certaines femmes.
Allez les nègres, on s'y remet.
Pour lui, l'histoire, c'est un... Il le dit, hein, c'est un rapport de force. Et par exemple, il y a quelques notations dans la correspondance où il dit que finalement les Français sont du côté des dominés et que ceux qui dominent dans l'Europe de ce temps-là, ce sont les Allemands. Qui, eux, savent faire la guerre, il le dit. Ce contact avec des populations extrêmement différentes le rend sensible à cette question de la lutte des civilisations, du péril que pourrait représenter l'invasion des populations étrangères dans son Europe à lui. Une vision très décadentiste du monde. Pour lui, l'Europe est un monde voué à l'anéantissement, à la décadence. Qui plus est, s'il est dominé par les Juifs.
Louis-Ferdinand Céline, à Simone Saintu, le 25 octobre 1916. Ma chère Simone, dans un article d'Urbain Goyer, je trouve une petite sentence incisive. La littérature française de demain devrait être purement française, c'est-à-dire vive, saine, gaie, réconfortante. Elle sera plus juive que jamais. C'est-à-dire morbide, mercantile, hystériquement patriotique pour exploiter le dernier filon.
Cette lettre de 1916, écrite par Louis Destouches à son amie d'enfance Simone Saintu, est très importante. Car c'est la toute première occurrence antisémite sous la plume du futur Céline. Une lettre écrite du Cameroun, où visiblement il lit Urbain Goyer. D'abord, qui est cet Urbain Goyer ?
Alors c'est un drôle de personnage. En fait, il fait partie de tout ce petit monde du pamphlet de la fin du 19e siècle. C'est un pamphlétaire et c'est un très grand antisémite. Alors c'est quelqu'un de très bizarre parce qu'il est à la fois Dreyfusard et antisémite, ce qui pourrait paraître tout à fait contradictoire. Mais en fait, il est surtout Dreyfusard par antimilitarisme. Urbain Goyer déteste l'armée, ce qui est aussi finalement le cas de Céline. Donc il se retrouve dans cet Urbain Goyer, journaliste, pamphlétaire, qui dénonce le complot juif, qui va être un des premiers éditeurs du protocole des sages de Sion par ailleurs.
Le protocole des sages de Sion est un texte publié pour la première fois en Russie en 1903. C'est un texte complotiste, inventé de toutes pièces par la police secrète du tsar, pour accuser les juifs et les francs-maçons de manipuler le monde à leur profit.
Les juifs étaient censés former une société secrète.
L'historien Léon Poliakov, 1968.
Qui tramait la perdition de tous les chrétiens et qui ambitionnait le pouvoir mondial. Un des meilleurs outils de la propagande hitlérienne.
La race empoisonnée par les juifs. Notre vie nationale totalement infiltrée. Les idéaux allemands bafoués.
Le protocole des sages de Sion, texte exploité par Hitler, continue encore aujourd'hui à alimenter de nombreux complots antisémites. Revenons en 1916 à Urbain Goyer.
Urbain Goyer qui sera aussi un des grands rédacteurs du pilori, au pilori pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sera condamné pour son collaborationnisme après la guerre. Donc c'est vraiment, là on a une occurrence, oui, c'est dans une lettre à Simone Saintu du 25 octobre 1916 où il dit que la pensée d'Urbain Goyer est très incisive. Et l'expérience de la guerre, finalement, il la passe au filtre de cette culture politique. Elle, d'une certaine manière, elle vient valider l'idée que, eh bien, le monde dans lequel il vit est un monde décadent, en perte de vitesse, menacé par différents périls et en particulier par le péril juif. Donc, il y a des occurrences qui apparaissent comme ça dans la correspondance, mais il y a probablement, même si on n'en a pas de preuves évidemment avérées avant, une fascination pour ces thèses antisémites très précocement.
Outre ces lectures antisémites au cœur de l'Afrique,
bonjour tout vivre,
bonne nuit, quelques démangeaisons.
Ce séjour au Cameroun constitue une autre source d'activité pour le futur docteur Louis Destouches.
Tu prends toujours ta quinine ?
Oui, docteur.
Parfait.
Je pense que le premier geste médical, véritablement, il se situe en Afrique.
David Labreur, docteur en lettres modernes.
Probablement. Lorsqu'il est surveillant de plantation au Cameroun, près de Douala, et il est confronté un peu à la nécessité de soigner les populations locales. Donc, il demande à ses parents l'envoi de médicaments, il administre des médicaments aux populations locales. Il n'a pourtant aucune formation médicale, mais le premier geste médical de Destouches, c'est à ce moment-là.
Vous dites geste médical, en effet, David Labreur, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se noue en Afrique à propos de la médecine et de Louis Destouches qui tiendrait à l'hygiène, pour ne pas dire déjà à l'hygiénisme. Que se passe-t-il en Afrique dans la tête du futur docteur Destouches ?
Alors, c'est vrai qu'il est confronté à une situation sanitaire qui est extrêmement compliquée, entre la chaleur, les maladies aussi, le paludisme notamment, qui sévit. Donc, il se fait des injections de quinine pour se soigner lui, pour soigner la population, d'atoxyl aussi, il prend pas mal de médicaments. Il est lui-même atteint du paludisme, et ce qui l'oblige à rentrer en France en 1917. Donc, il est déjà confronté à la violence en fait, des conditions climatiques et sanitaires en Afrique, extrêmement défavorables.
Entrez vite à cause des moustiques.
Que pense l'historienne Odile Roinette de ce rapport naissant à la médecine ?
N'oubliez pas la chasse aux insectes. Ils sont tous porteurs de germes et la plupart ne pardonnent pas.
Chez le futur Céline.
C'est aussi à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser beaucoup à la médecine, à comment il pourrait faire des petits essais médicaux sur les populations africaines. Donc il y a une sorte de vision qui n'est pas véritablement philanthropique hein, à l'égard des populations africaines, mais plutôt il les considère un peu comme un terrain d'expérimentation possible. Le rapport de Céline à la médecine, son engagement dans les études médicales au moment du retour en Europe, s'enracine probablement à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce contact avec l'Afrique, avec le pourrissement, avec la maladie. Il est obsédé par l'hygiène, il est obsédé par la nécessité de rester à distance de l'alcool, et c'est une obsession qu'il conservera jusqu'à la fin de ses jours.
Louis Destouches finit par attraper le paludisme au Cameroun, et il se plaint d'une dysenterie chronique. Il n'est pas dans un très bon état physique, et il va devoir rentrer en France. Entre 1914 et 1916, il a expérimenté la violence du champ de bataille, les bas-fonds londoniens et les plantations coloniales au sud de Douala. Alors, avant d'évoquer son retour en métropole, que peut-on dire à ce moment-là de la vision du monde de Louis Destouches depuis l'Afrique ?
Dès 1916, en fait, justement, et c'est pour ça que le moment africain est très important, dans sa correspondance avec son père, avec Simone Saintu, il dit clairement que, au fond, la langue académique, la langue française ordinaire, classique, la langue littéraire, est devenue incapable, au fond, de traduire les nouveaux rapports de force au sein de la société. Et en particulier, il exprime sa haine de la langue empoulée, héroïsante, qu'on trouve dans la propagande de guerre. Il dit que c'est une langue obscène, écœurante, meurtrière, mensongère. Et par conséquent, il commence à laisser entendre que la langue est le lieu où il est éventuellement possible de pouvoir exprimer la violence qui a été faite aux hommes pendant la Première Guerre mondiale. À partir de la Première Guerre mondiale, il prend conscience qu'il est éventuellement possible de dire la violence qui a été faite aux hommes en s'attaquant au problème de la langue. Et par exemple, ce qui est intéressant dans les brouillons de guerre, donc publié récemment, c'est qu'il revient sur cette langue obscène, qui est la langue des gens qui n'ont pas fait la guerre, qui sont restés dans le monde d'avant, hein, comme son père, qui parle la langue châtiée, et qui est en complet décalage avec ce que vivent les soldats, les combattants, etc. Et donc, la guerre est un événement de langage, et la littérature, telle que l'écrivain va la concevoir, va essayer de faire violence à la langue. D'où la réintroduction, l'introduction par Céline, la révolution véritablement esthétique qu'il fait subir à la langue, à sa langue, à la langue littéraire, en y introduisant en particulier une déconstruction de la syntaxe, l'argot, hein, la présence très importante d'un argot, et d'un argot qui n'est attention, qui n'est pas n'importe quel argot, qui est l'argot parisien, très important, qu'il cultivera toute sa vie auprès de ses amis, notamment lorsqu'il est à Montmartre avec Jeanne Paul, son ami peintre, très grand mutilé de la Première Guerre mondiale par ailleurs.
C'est marrant, physiquement, il avait une belle gueule quand même quand il était jeune. Il avait un corps de gonzesse, dis donc, pas un muscle. Puis il avait une grosse tronche, dis donc, il chaussait du 60 comme tronche. Il n'a jamais pu mettre un chapeau.
Ah bon ?
Il m'a dit, moi j'ai une bouille à porter la couronne. J'ai une tête de roi.
Ouais. Ah,
tu pourrais pas en dire autant.
Non, non.
On m'a toujours dit que j'avais une tête d'épingle, ouais. Oh.
Ouais, ouais, ouais.
Cet argot parisien d'une part, l'argot de caserne, puisque l'expérience de la caserne, là on la retrouve. Cet argot très important hein, qui circulait avant la Première Guerre mondiale et qui était un argot de métier, hein, métier de soldat qui a créé beaucoup de mots du quotidien. Je prends par exemple un mot comme « toubib ». Toubib, c'est un mot qui vient en fait de l'arabe, hein, qui vient du contact en fait des régiments français pendant la conquête de l'Algérie avec les populations arabes et qui a été retransféré dans la langue française dès le 19e siècle, bien avant la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez, des mots comme ça, en fait, tout ça, il l'utilise, il en fait son miel, mais par contre, j'ai trouvé très peu d'occurrences dans, par exemple, Voyage au bout de la nuit ou même dans les ouvrages ultérieurs de Céline, à un argot de la guerre qui serait un argot qui valoriserait les cultures de guerre. Par exemple, Bosch et absent. Ce mot qui dit la haine de l'allemand, ou en tout cas l'hostilité de l'allemand du point de vue des Français. On le trouve pas. Ou bien poilu, qui valoriserait le courage du combattant français, qui redonnerait au combattant français une dignité que Céline dénie complètement aux soldats de la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'il est absolument pas du tout classable du côté du mouvement des anciens combattants, qu'il méprise profondément.
À tous nos fils qui ont été sacrifiés pour la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Dans sa littérature, Louis-Ferdinand Céline a nié la dignité des poilus sur le champ de bataille. Écoutons un autre point de vue, celui d'Henri Malherbe, écrivain lui aussi, et prix Goncourt 1917, avec son roman « La flamme au poing ». Que pensait-il, en 1950, des combattants de Verdun ?
Les soldats de la France, les meilleurs soldats de la civilisation, étaient enfin placés au rang d'honneur qui leur était dû.
Tout le monde, baïonnette au canon !
De l'abnégation des nôtres, une nouvelle conscience morale était née, qu'on a appelée alors l'esprit de Verdun. Esprit fait de passion pour la liberté, fait d'énergie inflexible, fait d'ingénieuses adaptations aux circonstances les plus périlleuses.
Allez, quand faut y aller, faut y aller.
Ne nous y trompons pas, c'est l'esprit de Verdun qui a engendré l'esprit de la résistance au cours de la dernière guerre mondiale.
Refusant de croire à cet esprit de Verdun, Louis-Ferdinand Céline va nier le courage du poilu. Il va affirmer que les hommes sont essentiellement animés par des pulsions destructrices. Et en niant le courage et la fraternité des poilus, il les méprise et il les réduit à néant.
Ah oui, il y a une violence qu'il retourne contre eux. Dans Voyage au bout de la nuit, hein, en particulier, en faisant parler. Dès que Céline veut dire des choses politiques ou idéologiques, il fait parler un personnage en lui prêtant son propre état d'esprit. Donc, dans Voyage au bout de la nuit, par exemple, c'est Princhard, le professeur Princhard, qui déconstruit tout le discours des anciens combattants et qui dit, au fond, ces soldats, ce sont des abrutis qu'on envoyait au casse-pipe. Hein. Donc, il dénie en particulier aux soldats français et aux combattants toute dignité en réduisant à néant cette notion qui a été si importante pour les anciens combattants, qui était celle de la fraternité des tranchées. Hein, c'est-à-dire qu'on tenait sur le front dans des conditions atroces pour le petit groupe de combattants qui combattaient avec soi, pour ne pas abandonner un camarade à une mort certaine sur le champ de bataille, pour être sûr qu'on allait être recherché, que le cadavre du mort allait être ramené dans les lignes, qu'on allait pouvoir inhumer de manière digne quelqu'un. Tout ça, pour Céline, ça n'existe pas. C'est une preuve de bêtise, de lâcheté, etc. Donc le courage est indigne. Donc il y a vraiment une parole très transgressive. Hein. Et ça, il le répétera jusqu'à la fin.
À l'opposé de ce mépris célinien, on trouve sous la plume d'Henri Barbus, prix Goncourt 1916 avec le feu, un soldat français qui conserve toute son humanité et sa dignité dans un esprit fraternel.
Toi qui écris, t'écriras sur les soldats de cette guerre? Tu parleras de nous?
Mais oui. Je parlerai de toi et des copains et de notre existence.
Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Voilà. Si tu parles des Troufions, tu les feras parler comme ils parlent? Ou bien t'arrangeras ça? Non, je te dis ça, c'est... c'est rapport aux gros mots qu'on dit. T'entendras jamais deux poilus l'ouvrir pendant une minute sans qu'ils disent et qu'ils répètent des choses qu'il y a des gens... Enfin, les gens bien n'aiment pas entendre, quoi. Alors, si tu les dis pas, bah, ton portrait, il sera pas ressemblant. C'est comme qu'il dirait que tu voudrais les peindre et puis que tu ne mettes pas une des couleurs partout où elle est.
Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c'est la vérité.
Cela dit, il faut aussi reconnaître qu'il y aura plus tard chez Louis-Ferdinand Céline la conscience radicale d'un monde qui ne sera plus jamais le même après la Première Guerre mondiale.
Il y a une clairvoyance de l'écrivain qui est presque une sorte de... si on reprenait des images du 19e siècle de voyant, il y a un côté voyant chez Céline. Il comprend intimement cette fracture profonde dans l'histoire de l'humanité qu'a représenté cette guerre. Et il cherche à faire partie d'une solution à un problème absolument abyssal qu'a créé cette guerre. Alors évidemment, les solutions qu'il va apporter sont pas forcément celles qu'on aurait aimé qu'il apporte. Mais ça, c'est encore un autre point.
Quel mot voudriez-vous prononcer? Quelle phrase voudriez-vous écrire avant de disparaître?
Louis-Ferdinand Céline, au micro d'Albert Sbinden, 1957.
Ils étaient lourds, voilà ce que je pense, oui. Les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas? Ils sont lourds et épais, voilà ce qu'ils sont. Plus que méchants et bêtes en plus, mais ils sont surtout lourds et épais.
Poursuivons notre récit. Nous sommes maintenant revenus à Paris, en mai 1917. Louis Destouches a quitté Douala sur un navire de la poste britannique. Il a débarqué à Liverpool et il est repassé par Londres. Et le voici de retour en France. Et pendant plusieurs mois, il embrasse une vie de bohème dans la ville de son enfance. Il a 23 ans et un peu d'argent en poche, amassé en Afrique. Et puis, Louis Destouches se fait recruter en mars 1918 par la Fondation Rockefeller. D'abord, de quoi s'agit-il ?
Alors, la Fondation Rockefeller, elle a été fondée par John Rockefeller en 1913. C'est une fondation qui est philanthropique, puisqu'elle a pour but, alors je crois que c'est le bien-être de l'humanité. Il me semble que ça fait partie de ses statuts. Donc, elle investit beaucoup d'argent dans la santé publique et elle crée un bureau international d'hygiène. Et ce bureau international d'hygiène propose des missions, propose de faire un état des lieux dans certains coins, dans certains pays, en tout cas sanitaires, voilà, de santé publique et sur certains problèmes, notamment d'hygiène publique. Je pense à la tuberculose, à la syphilis. Donc la Fondation Rockefeller missionne en fait des conférenciers pour faire de la propagande hygiéniste, c'est-à-dire voilà, donner des cours, des conférences pour les ouvriers dans des écoles, pour sensibiliser toute une population à certains fléaux sociaux, alors tuberculose, syphilis, alcoolisme.
Et alors du coup, quelle est la mission de Louis Destouches au sein de cette Fondation Rockefeller?
Alors lui est conférencier. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une mission qui parcourt la Bretagne. Et en fait, il est conférencier, propagandiste, il chante des chansons, alors il habille en uniforme de l'armée américaine, puisque la Fondation Rockefeller, c'est une fondation d'origine américaine. Et donc, il fait du théâtre de marionnettes, par exemple. On illustre des scénettes de propagande de santé publique, il y a des affiches, il y a des interventions dans les écoles. Et donc, il fait une œuvre de conférencier, propagandiste pour la mission Rockefeller.
Et donc, dans cette mission en Bretagne, David Labreur, Louis Destouches va faire la rencontre du docteur Follet, Athanase Follet. D'abord, qui est-il en quelques mots ?
Alors, Athanase Follet, c'est un des médecins un peu notables, voilà, à Rennes. C'est une des grandes figures médicales de Rennes. Et il soit né notable. Alors, il a un style de vie un petit peu grand train. C'est un grand bourgeois de Rennes, un peu. Voilà. Faut l'imaginer un peu comme ça. Quelqu'un qui a de l'entre-gens. Donc, quelqu'un qui va servir à Destouche aussi à entrer dans le milieu médical et entrer dans un certain milieu bourgeois. Que Destouche connaît pas. Il a des origines non pas modestes. Il a toujours surestimé ses origines modestes, mais on va dire petit commerçant parisien. Et là, il entre dans un autre monde. La notabilité rennaise et médicale. Et donc, il y a une estime réciproque. Hein, Destouche admire le médecin, mais surtout, Follet se prend un peu d'affection pour lui aussi.
Bonjour, mon futur gendre. J'ai grand plaisir à vous appeler ainsi.
Bonsoir, mon futur beau-père. Moi de même.
Alors, entrer dans cette haute bourgeoisie rennaise, mais pour quelle raison est-ce une rencontre cruciale pour Louis Destouche que ce docteur Follet ?
Alors, cette rencontre est cruciale sur plusieurs plans. D'une part, sur le plan professionnel, on va dire orientation professionnelle, parce que c'est un peu sur l'insistance d'Athanase Follet que Destouche va passer son baccalauréat, c'est Bachot, comme il dit, en 1919.
Bien, asseyez-vous. Je vous présente un nouveau venu. Voici vos livres.
Merci.
Vous pouvez prendre place.
L'académicien Frédéric Vitoux nous a confié des enregistrements originaux et inédits d'Edith Follet, la fille du docteur Follet, et elle se souvient de Louis Destouche en 1919.
Vous savez qu'il était curieux comme une vieille concierge. Il avait toujours envie de savoir un peu quoi, comment ça se passait, pourquoi, ce que c'était. Il était très, très curieux. Et c'est comme ça aussi, d'après l'abbé qui lui a fait passer son
bachot. L'abbé Pian. Non.
L'abbé Pian, il nous avait dit, l'abbé Pian, qu'est-ce que vous voulez, il veut tellement savoir quoi, comment et qu'est-ce, que comme il est très intelligent, il expliquait la rapidité de sa façon de travailler.
Et c'est un peu sur l'insistance d'Athanase Follet qui va aussi entamer des études de médecine.
Bistouri, s'il vous plaît.
Je tiens à faire remarquer aux étudiants que le docteur Christiansen exécute une incision médiane juste au-dessus du pubis.
Alors, lui ramène sa vocation à très très loin, mais l'élément déclencheur, on va dire concret, c'est cette rencontre avec Athanase Follet et la rencontre aussi, là, sur un plan plus personnel, avec sa fille. C'est lors d'un dîner, puisque, bon, comme je l'ai dit, Athanase Follet s'est pris un peu d'affection pour le jeune homme, donc il l'amène à des dîners chez lui, où il lui fait rencontrer des gens, et il rencontre, lors d'un de ces dîners, la fille d'Athanase Follet, qui s'appelle Edith, qui est une jeune femme de 19 ans, une illustratrice, notamment pour la semaine de Suzette, donc elle a, c'est plutôt une artiste. Voilà, et les deux jeunes gens tombent amoureux. La rencontre avec Athanase Follet a donc ce double intérêt pour Destouche. Alors déjà, l'intérêt personnel pour sa fille, et beaucoup de biographes de Céline disent que ça a été un peu une condition pour épouser sa fille, c'est que Destouche acquiert une certaine situation, une certaine aisance matérielle. Donc il aurait un peu poussé Destouche à passer son baccalauréat d'une part, ce qui était inconcevable quand même que sa fille marie quelqu'un qui n'est pas le baccalauréat, et ensuite, voilà, qu'il entame des études de médecine un peu dans le sillage du beau-père, quoi.
En conclusion de ce troisième épisode, retenez que Louis-Ferdinand Céline, le jeune cuirassier blessé de guerre, une fois rétabli, a d'abord été affecté à Londres, avant d'être adroitement démobilisé à la fin de l'année 1915.
Il n'est pas pressé de retourner au front.
Puis il quitte l'Angleterre pour le Cameroun, où il se forge une conviction que la France se délite. Nous reviendrons plus tard, au fil de cette série, sur les solutions, entre guillemets, qu'il propose pour remédier à cette angoisse qui l'étreint.
Les hommes en général, ils sont horriblement lourds, n'est-ce pas ? Ils sont lourds et épais.
Enfin, embauché par la Fondation Rockefeller, son chemin croise celui du docteur Follet, un notable qui lui offre enfin une opportunité d'ascension sociale.
Madame est servie.
Louis Destouche ne compte pas laisser passer sa chance. Marcel Brochard, ami de Céline, confirme.
Médecine, médecin, travail, la thèse, tout ce qui était médecine était pour lui l'horizon continuel. Je me souviens très bien venant me voir à Chantenay dans ma petite fabrique de 4 sous et me disant « Je veux être médecin dans ton quartier, je vais installer un petit cabinet pour les pauvres ». Il cherchait dans Chantenay, près de Nantes, dans cette banlieue ouvrière de Nantes, il cherchait de quoi s'installer pour soigner les pauvres. Déjà, 1922.
Comment le docteur Follet offre à Louis-Ferdinand Céline un vrai statut social et un ticket d'entrée dans la bourgeoisie, c'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Le Toubib de Clichy. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.